Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Jérémy Boucher.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la 19e édition de Quai du Polar qui se tient actuellement à Lyon en présence de 150 auteurs venus des quatre coins du monde pour 3 jours de festivités autour du roman noir, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'un des prestigieux invités de cette manifestation, l'écrivain britannique R.J. Ellery. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Marguerite Capel, qui sera votre interprète pour cet entretien. Après 14 romans, parmi lesquels Vendetta, Seul le silence, Les fantômes de Manhattan ou encore Omerta, tous publiés aux éditions Sonatine, voici le 15e titre que nous pouvons lire de vous en français dans une traduction de Étienne Gomez qui paraît sous le titre « Une saison pour les ombres ». Un livre noir et blanc aussi, puisqu'il se déroule dans une région très enneigée du nord-est du Canada, dans un village reculé du Québec où la plupart de la population vit de la mine de fer, où s'est implantée une grande usine. Un lieu comme souvent loin de votre pays natal, nous y reviendrons. Mais si je vous ai bien lu, R.J. Ellery, ce lieu vous a été inspiré par Marie Misandeau, votre éditrice française chez Sonatine. Est-ce le cas?
Oui, absolument. Yes. Mary explained to me that I had a very strong readership in Quebec, and I've been many times.
Oui, tout à fait. Marie m'a expliqué que j'avais un lectorat très important au Québec. J'y suis allée régulièrement. C'est une région que j'adore, le coin de Montréal aussi. Et Marie m'a dit, ce serait un joli geste, un geste de reconnaissance envers tous tes lecteurs québécois si tu situais l'action d'un livre au Canada. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai répondu, bah, super. Et c'était aussi simple que ça, je l'ai fait.
When I begin the process of writing a book, I make 3 decisions, only 3 decisions.
Quand je commence à écrire un livre, je prends 3 décisions et seulement 3 décisions. La première, c'est que je dessine une idée générale, toute simple, du type d'histoire que j'ai envie de raconter. La deuxième, c'est que je choisis un lieu et je choisis une période, une époque. Et la troisième, c'est que je décide quelles émotions j'ai envie de susciter chez le lecteur.
Do I want to evoke in the reader? In this case, the second decision came first because I had been given.
Dans le cas de ce livre, c'est le deuxième point, le deuxième choix qui s'est imposé en premier puisque le lieu m'a été proposé par quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai fait des recherches sur le Québec et j'ai trouvé différentes zones qui me semblaient intéressantes pour l'histoire.
And I discovered that in the 1950s,
et donc j'ai découvert que dans les années 50, l'entreprise qui gérait les mines de fer au Canada, Canada Iron, avait construit des villes pour loger tous les mineurs, pour les héberger. Et c'est là où je me suis rendu compte que cette région, l'habiter n'était pas qu'une question de survie, ça devenait aussi une forme de prison.
And so then I thought, if you were a child.
Et donc je me suis dit que quand on grandissait dans un environnement pareil, on devait avoir comme principale motivation l'envie de le quitter, cette envie de s'enfuir, de partir ailleurs. Et puis ensuite, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un était effectivement parti, s'était échappé de son environnement et était forcé par quelque chose à y retourner.
Et donc nous voici à Jasperville. Et si on peut entendre dans le nom de cette ville Jasper, en fait, très vite, on va comprendre qu'il s'agit plutôt d'une ville qui provoque le désespoir, puisque, en effet, comme vous venez de le dire, R.J. Ellery, toute la communauté non seulement souffre du grand froid, mais du travail très dur à la mine. Et puis, la ville est aussi victime d'une série de meurtres en série qui visent des jeunes filles sur une période de 20 ans. Petite parenthèse et juste par curiosité, est-ce que c'est inspiré d'un fait divers ou pas?
Non, mais la ville de Jasperville s'inspire d'une ville qui s'appelle Schefferville, qui était une des villes qui a été construite dans la région pour ces raisons-là.
But I think the question
Mais la véritable question, c'est pourquoi écrire un polar ? Pourquoi écrire un roman policier, un roman aussi sombre sur des jeunes filles massacrées dans la forêt au Canada ? Ce n'est pas parce que j'ai une obsession macabre pour le sujet, c'est parce que ça me donne l'occasion de placer un individu ordinaire dans une situation extraordinaire.
In an extraordinary situation and explore the thing that really fascinates me, which is the psychology of the human condition.
Pour faire ce qui m'intéresse réellement, qui est d'explorer la psychologie de la condition humaine et la manière dont on prend des décisions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et dont on doit ensuite en affronter les conséquences. C'est pour ça que le crime est simplement pour moi un moyen d'explorer cette condition humaine.
Oui, c'est en effet la question de la nature humaine qui vous intéresse, A.J. Ellery, et on en reparlera un peu plus tard parce qu'il y a toujours une épaisseur à vos personnages qui souvent prend le pas sur l'intrigue classique, même si ici, rien n'est classique du tout. Donc, l'histoire nous est racontée du point de vue de Jack, qui a anglicisé son prénom, qui en fait est Jacques Devereaux. Un homme qui a fui Jasperville et qui, après 26 ans d'absence, en rupture totale avec sa famille, doit revenir pour aider son jeune frère, qui est en mauvaise posture puisqu'il est accusé d'avoir tenté d'assassiner un autre homme. Qui est Jack pour vous?
He is a man who hoped to achieve freedom by escaping from the horrors of his childhood.
Jack, c'est un homme qui espérait trouver la liberté en s'enfuyant, en fuyant les horreurs de son enfance. Seulement pour s'apercevoir que la prison de sa propre conscience, la prison de sa culpabilité d'avoir laissé derrière lui sa famille, est bien pire encore que la prison réelle qu'il a laissée derrière lui à Jasperville.
He is a very quiet man. He does not make good relationships with people.
C'est un taiseux, c'est quelqu'un qui ne se lie pas facilement avec les gens. De façon assez ironique, c'est quelqu'un qui travaille dans les assurances et qui enquête sur les sinistres, sur les incendies. Pour quelqu'un qui a grandi dans un endroit aussi froid, il se retrouve dans un univers qui est totalement à l'opposé. Et c'est donc surtout quelqu'un qui, au bout de 20 ans, va réaliser que la seule manière d'échapper à son histoire, c'est de retourner là d'où il vient, de se confronter à ce passé, d'en assumer aussi la responsabilité et de se reconfronter à la fois à ce qui s'est passé, aux événements et aux membres qui restent de sa famille. Je crois aussi que, inévitablement, dans tous les personnages que je crée, il y a des éléments qui sont des reflets de ma propre personnalité.
Each time they are faced with a situation, I ask myself, if this was me, what would I do?
Et c'est comme ça que j'écris sur des situations qui ne sont pas nécessairement des situations vécues personnellement.
And I write this into the character. So even though these are situations that are not personal situations, I think that the way that they respond to such
situations. Mais où la réaction du personnage est un reflet de ma propre attitude, de ma propre personnalité.
Alors, je suis contente que vous parliez de cette proximité, en effet, que vous avez, vous, comme écrivain, avec vos personnages. Et ici, j'imagine que ce n'était pas tout à fait par hasard que Jacques Devereaux est né la même année que vous, A.J. Ellery, en 1965, et qu'il y a sans doute en effet des ondes. Pour revenir au déroulement du roman, et pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, je rappelle ce qui se passe, puisque donc Jack est rappelé dans le Grand Nord, et pendant qu'il fait ce long chemin, c'est plus de 1000 kilomètres, en voiture, en train, lui remonte en mémoire des souvenirs d'enfance. Combien avant les meurtres, il vivait dans une famille heureuse. Un père qui était chef à la mine, une mère aimante et courageuse, une grande sœur, un petit frère et un grand-père, un peu fantasque, qui leur racontait des histoires à faire peur, des histoires d'esprits indiens, de légendes, de vengeance, de fantômes cannibales, qui aurait jeté un sort, une malédiction sur Jasperville. Est-ce que vous y croyez, vous, A.J. Ellery, au lieu hanté par des présences surnaturelles ?
I believe that myths and legends have existed.
Je crois que les mythes, les légendes existent justement comme des tentatives d'expliquer ce qui n'est pas explicable d'une façon concrète, d'une façon matérielle.
I also believe that people can have.
Et je pense que les gens, certaines personnes peuvent avoir un certain niveau de conscience spirituelle, de perception spirituelle peut-être, qui les rend capables de sentir la présence antérieure, passée, de quelqu'un justement qui n'occupe plus à l'heure actuelle un corps. Donc oui, je pense que tout ça est possible.
En tout cas, ici, dans les années 1970, quand une, puis deux, puis trois jeunes filles sont retrouvées mortes, éviscérées dans la neige, juste à côté de leur maison, que personne ne trouve de coupable. La rumeur dit que c'est le Wendigo. Ça, c'est un vrai mythe amérindien. Est-ce que vous l'avez découvert en écrivant ce livre, R.J. Ellery, ou vous vous étiez déjà familier avec les Wendigo?
Yes, but... It was interesting to research because
oui, mais les recherches étaient particulièrement intéressantes sur le Wendigo parce qu'il y a une certaine forme de responsabilité quand on écrit, quand on partage un mythe comme celui-ci, une croyance comme celle-là. Il y a la responsabilité de traiter ce qui est une conviction, une foi profonde, un acte de foi pour certains, avec respect. Et donc, on l'aborde avec des limites très strictes sur ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut écrire justement pour se montrer respectueux de cette croyance. J'ai appris énormément de choses sur le Wendigo en écrivant le livre, mais surtout que la raison principale pour que cette notion du Wendigo, ce concept existe, c'est parce que la plupart des gens rationnels, des gens ordinaires, des gens qui sont de bonnes personnes, sont incapables d'accepter l'idée qu'un autre être humain puisse commettre des atrocités pareilles, et donc il y a cette nécessité de créer une figure mythique, un animal, une bête ou une figure mythologique pour endosser ces crimes.
Because they cannot believe that a human being would do something like this to another human being.
Et c'est toute la réussite de ce roman, en effet, Une saison pour les ombres, où vous êtes à la frontière du fantastique, de la religion, de la raison, du bien, du mal, de la cruauté. Mais est-ce que c'est la cruauté humaine ou la cruauté animale? Et pendant longtemps, on ne va pas savoir, en effet, qui est le responsable de ces meurtres? Et ici, malheureusement, je ne dirai absolument rien, puisqu'il faut garder toute la saveur et la découverte au lecteur. Encore une remarque, il m'a semblé, ou ça m'a rappelé aussi, peut-être Shining de Stephen King, ou ce grand hôtel où on se souvient, vit un couple avec un enfant et que l'homme devient totalement fou, envahi, était, d'après l'auteur, me semble-t-il, construit sur un cimetière indien. Donc, il y a bien quelque chose qui ressort de la terre aussi chez vous, R.J. Ellery.
It's interesting that you mention this book. When I was a child, I was sent to an orphanage, a boarding school for many years.
C'est intéressant que vous mentionniez ce livre parce que quand j'étais petit, on m'a envoyé dans un orphelinat, dans un pensionnat où j'ai passé quelques années. Et je me souviens d'avoir été malade et placée en quarantaine quand j'avais 12 ans.
And the door was locked.
Et on avait fermé la porte à clé pour que je ne puisse pas sortir, contaminer les autres avec la maladie quelconque que je pouvais avoir ce jour-là.
And while I was in this room, by myself,
et donc je me souviens d'avoir été seul ainsi, fiévreux à 12 ans, et j'ai lu Shining.
Half of it, I didn't understand.
La moitié du livre, je n'ai pas compris, et l'autre moitié, en revanche, m'a terrifié.
I'd always read.
J'ai toujours lu énormément, les livres ont été extrêmement importants dans mon enfance, mais je me souviens de ce moment comme très significatif. Parce que ce livre avait provoqué une réaction physique de peur et d'angoisse, un impact qui était tellement puissant que j'avais entrevu la puissance, le pouvoir que pouvait avoir la bonne littérature. Et en tout cas, encore aujourd'hui, cette notion d'un lieu qui serait habité, d'un lieu qui serait hanté par une présence surnaturelle. C'est quelque chose que je voulais pour Jasperville. Je voulais surtout que Jasperville ait une véritable identité, une identité aussi importante que celle des personnages. Je voulais que Jasperville soit en quelque sorte un personnage. Encore une fois, ce que je veux d'un livre, c'est que 6 mois après l'avoir lu, même si vous vous souvenez plus nécessairement du titre, même si vous ne vous souvenez plus des détails, vous vous souvenez de ce qu'il vous a fait ressentir, du sentiment qu'il vous a laissé. C'est ça qui compte à mes yeux.
Et ce sentiment est tellement puissant que, par exemple, en vous lisant A.J. Ellery, moi, j'ai repensé à un livre, un roman français que j'ai lu il y a très longtemps, un roman de Jean Giono qui s'appelle Un roi sans divertissement. Et qui, de la même façon, met en place une communauté un peu perdue dans la neige et avec des esprits et des corps qui disparaissent. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, il y a cette puissance-là aussi qui m'a frappée en lisant le vôtre. On va faire une pause musicale. Je n'ai pas trouvé de référence particulière dans ce roman, mais comme vous êtes musicien, je me disais que vous aviez peut-être envie de partager avec nos auditrices et nos auditeurs maintenant un titre. Soit que vous interprétez, je crois que vous jouez de la guitare, n'est-ce pas?
I have a group in England. Yeah, we've made three.
Oui, j'ai un groupe en Angleterre. On a réalisé 3 albums. On a d'ailleurs déjà joué en France.
Well, if you can find the last album.
Okay.
Because actually there's.
Et il y a 2 pistes sur le dernier album dont l'ambiance est justement 2 chansons dont l'ambiance est assez proche en fait du concept et de l'atmosphère du livre.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le titre du dernier album?
The Garage Tapes.
Le dernier album s'intitule
The Garage Tapes.
Yeah, The Garage Tapes.
Très bien. Donc on va écouter un titre de cet album, The Garage Tape.
Yes, exactly. We can do that.
So we spent our lives forgetting all those days we should remember. Giving all that time things we'd best forget. Each and every way, working hard to change our situation. Dreaming up disasters that had not happened yet. But I have time to make this cease, time to make my peace, for time, if nothing else is on my side. All the words we shared when wisdom should have kept us silent. All the things we did when reason should have held us back. Now we see how hindsight is a cruel advisor. Tells us how to value what we had instead of what we lacked. And I have time to make this cease, time to make my peace, time if nothing else is on my side.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain britannique R.J. Ellery, dont le nouveau livre « Une saison pour les ombres » vient de paraître en français aux éditions Sonatine. Un roman noir entre horreur et enquête policière, un roman existentiel qui interroge la question de la survie au prix du sacrifice des gens qu'on aime, et un roman familial où la violence et la haine peuvent prendre la place de l'amour et se transformer en folie. Et puis un roman qui met en scène 2 frères, Jacques et Calvis, le premier ayant abandonné le deuxième encore enfant, et qui revient 26 ans après pour comprendre pourquoi son cadet a fait une tentative de meurtre. Ce n'est pas la première fois que vous mettez en scène deux frères. C'est une relation qui vous tient particulièrement à cœur, R.J. Ellery?
Yes, I immediately thought of Mauvaise Étoile, the two brothers.
Oui, j'ai tout de suite pensé à Mauvaise Étoile, où il y a aussi deux frères. Un jour, un lecteur m'a dit, dans tous vos livres, il y a des personnages qui ont des problèmes avec leurs parents, des problèmes avec leur famille. C'était quelque chose qui ne m'était pas du tout venu en tête.
I think I like to write about relationships that are familiar.
Mais ce que j'aime, c'est écrire sur des relations, des rapports qui me sont familiers. Or, moi, j'ai grandi sans avoir de parents, et quand les gens me parlent des rapports qu'ils entretiennent avec leurs parents, avec leurs grands-parents, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger.
It is completely alien. I have no understanding of this. But I have a brother.
En revanche, j'ai un frère, un peu plus âgé que moi. Très jeune, on a été envoyé dans des écoles différentes après la mort de ma mère à l'âge de 7 ans. Et puis on a aussi été séparés à d'autres moments de notre vie. On ne s'est pas parlé pendant 15 ans, plus tard dans nos vies. Mais curieusement, on a toujours réussi à garder une forme de proximité, à un lien. Même quand on ne s'était pas parlé pendant 15 ans, le jour où on s'est retrouvé, c'est comme si on s'était quitté la veille. Et donc ce type de dynamique-là est quelque chose qui m'est familier. Et pour répondre à votre question, je pense qu'inconsciemment, sans le prévoir, j'écris toujours sur des expériences qui me sont personnelles. Je pense que la façon dont j'écris a toujours un lien avec le regard, le ressenti que moi j'ai par rapport au monde. Mais c'est seulement plus tard, quand un lecteur me le fait remarquer, quand on me pose la question, que je me rends compte que ce que j'écris reflète d'une certaine façon mon vécu à moi.
Et en effet, ici, on voit bien comment Jacques essaye de renouer une relation avec son frère Calvis, même s'il s'est passé 26 ans et même si il ne comprend pas pourquoi il est en prison, mais il va l'aider. Au-delà de la relation avec le frère, il y a aussi la question de l'enfermement qui est très important ici. L'enfermement géographique, l'enfermement mental, comme une sorte de prison. Quand Jack découvre la maison où a vécu son frère, il découvre une pièce remplie de journaux, des carnets, où il a écrit, pris plein de notes, cette espèce d'obsession de l'écriture. Et c'est en ça que j'avais l'impression que c'était un roman extrêmement personnel où vous étiez à la fois Jack et Calvis d'une certaine façon.
Je pense qu'effectivement, vous avez mis le doigt sur un aspect extrêmement personnel et autobiographique du livre que vous avez su identifier mieux que moi et auquel je repenserai à l'avenir.
And you're making me think more about what I've done than I think about it myself, which I find really interesting.
Parce que vous me faites réfléchir sur ce que je fais, et c'est ça qui est fascinant là-dedans. Votre observation est effectivement très juste, et je suis tout à fait d'accord.
Makes sense to me. I agree with your observation.
Puisque vous parlez d'écriture, R.J. Ellery, petite question très anecdotique. Une de vos protagonistes ici, qui est curieuse, qui pose beaucoup de questions, dit « Ah, je suis désolée, je suis romancière, toujours à fourrer mon nez partout, j'ai envie de tout savoir. » Fermez les guillemets. Et vous?
Oh, yeah. Always in taxis, on airplanes, on buses. I will start conversations with strangers.
Oui, je suis always tout le temps comme ça. Dès que je suis dans un taxi, dès que je suis dans un avion, je vais lancer des conversations avec des inconnus. Je suis tout le temps en train de poser des questions. En fait, je trouve les gens assez fascinants d'écouter. Tout le monde a des choses à raconter. Et puis les gens aiment bien, d'ailleurs, qu'on les écoute parfois. Ils aiment bien parler, donc j'aime les inciter à le faire. En fait, j'apprécie beaucoup la compagnie des gens. C'est sans doute ce qui est assez contradictoire avec l'existence solitaire que je mène. Ça me fascine, j'ai envie de tout savoir. Je suis aussi complètement accro aux recherches. Je peux passer 2 heures, 3 heures sur un sujet qui va me passionner, même si finalement il n'apparaîtra pas du tout dans le livre, juste parce que ça m'intéresse d'essayer d'en savoir le plus possible.
it interests me. So yeah, I'm endlessly curious. I think.
Et je crois que cette curiosité sans fin est vraiment peut-être une des choses que j'ai gardées de mon enfance et qui est même encore plus forte aujourd'hui.
Has only become stronger.
Alors cette gourmandise, cette curiosité, on nourrit votre œuvre littéraire. R.J. Ellery, je rappelle que vous êtes traduit dans 26 langues, que vous êtes l'auteur de plus de 15 romans. Mais ce succès, je voudrais le dire aussi pour nos auditrices et nos auditeurs, est lié quand même à une obstination et une persévérance extraordinaire. Puisque avant d'être publié, vous avez écrit plus de 20 romans qui ont été refusés. Et même le tout premier qui a été publié, Papillon de nuit en français, vous avez reçu 600 lettres de refus. Donc en fait, c'est un message que j'adresse à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Ne renoncez jamais. Et vous, vous n'avez jamais renoncé. Vous avez toujours eu la foi. Et vous avez toujours pensé que oui, vous étiez écrivain et que c'était votre métier, n'est-ce pas ?
I started writing in November of 1987. I started writing my first novel.
J'ai commencé à écrire en novembre 1987. J'ai écrit mon premier roman au stylo sur du papier. Et dans les six années qui ont suivi, j'ai écrit 24 romans qui ont été tous refusés. J'ai dépensé énormément d'argent, des milliers de livres en photocopie et en frais de poste à l'époque. C'était avant Internet. Et puis en 1993, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné l'écriture pendant 8 ans. Et j'ai recommencé à écrire à nouveau au lendemain, le lendemain même du 11 septembre.
I gave up for 8 years and started again the day after 9/11. So I started writing again and I wrote 3 books.
Et donc j'ai recommencé à écrire, j'ai écrit 3 romans et c'est le numéro 2, Papillon de nuit, qui après avoir été refusé par de nombreux éditeurs a fini par être apprécié par un jeune éditeur qui a vu le sens de ce livre-là et qui a vu l'intérêt de le publier et qui a passé 6 mois à travailler très dur pour convaincre sa maison que c'était un investissement raisonnable. Et j'ai touché très peu d'argent pour ce livre, mais le livre a enfin été publié en 2003.
Development was that I had not seen my brother or spoken to my brother for 15 years.
Il y a une conséquence aussi très importante, intéressante, c'est que je n'avais pas vu mon frère depuis 15 ans. Je ne savais pas où il habitait, il ne savait pas où j'habitais, on n'était plus du tout en contact. Et il est allé dans un supermarché à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où j'habite, et puis il est tombé sur ce livre, il l'a acheté. Et il l'a lu et il a écrit à mon éditeur en disant « Je suis le frère de l'auteur de ce livre, est-ce que vous pouvez nous mettre en contact ?» Ce que l'éditeur a fait. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes donné rendez-vous. Il avait 2 enfants, moi j'avais mon fils. Nos enfants avaient 6, 7 et 8 ans. Ils étaient donc cousins, c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Et donc on a été réunis ainsi 15 ans après avoir cessé de se voir, par la chance quelque part et par la première édition de ce roman.
Par la chance peut-être, mais par la littérature certainement et par l'écriture. Et c'est aussi un peu ce qui se passe ici. Vous réunissez 2 frères en écrivant ce roman, R.J. Ellery, qui du coup synthétise aussi ce que vous venez de nous dire. Ne renoncez jamais et on a tous droit à une deuxième chance. Et c'est ce qui arrive ici à vos personnages. Merci infiniment d'être venu nous parler de ce nouveau roman. Une saison pour les ombres, qui a été traduit de l'anglais par Étienne Gomez et qui est apparu aux éditions Sonatine, votre éditeur français. Et merci encore à Marguerite Capelle, qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien. Et je rappelle, R.J. Ellery, que vous êtes l'un des invités prestigieux de cette manifestation Quai du Polar qui se tient en ce moment à Lyon.